Alléluia. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'être baignés dans ce bain d'amour qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous rend comme neufs. Il n'y a absolument rien que tu as pu vivre dans ton passé de trop lourd pour que tu puisses comme être quelqu'un de totalement nouveau, pour poursuivre la vie avec une nature complètement nouvelle. Il n'y a rien qui peut te séparer, qui peut empêcher cette grâce et cet amour de venir sur toi. Amen. Ah, merci au Seigneur pour sa présence, ce qu'il a déjà fait ce matin. Et on va vraiment poursuivre, aller dans la continuité de ce qui a été vécu, j'en suis convaincu. Et il y a une chose que je suis convaincu, c'est que Dieu est le créateur de l'univers, de la terre, des cieux, de toutes les belles choses qu'on voit. C'est lui qui nous a créés hommes, qui nous a créés femmes, et dans ce sens, il est encore aujourd'hui ce créateur. Il n'est pas devenu depuis spectateur de ce qu'il a créé une fois il y a X milliers d'années. Il n'a pas juste créé un biotope comme cette planète, avec un premier homme, une première femme, puis maintenant il regarde ce que ça devient, ce que ça donne, un peu comme si chez toi, tu, à un moment donné, un jour, tu décides d'avoir un aquarium, tu mets un peu le décor, quelques plantes, deux poissons, puis ça commence à prendre... ou bien deux souris, ça pullule encore plus. Non, il est tellement puissant, il est tellement grand, qu'il est créateur et pas juste l'initiateur de quelque chose au départ. Il était, il est et il sera à jamais ce créateur qui crée de façon intentionnelle, intentionnelle. Il a une intention, un plan pour chaque être humain qu'il a créé sur Terre. Il n'est pas pris de court, comme si tout à coup nos poissons s'étaient multipliés dans notre aquarium, puis on ne sait plus tellement à quoi ils servent finalement, tellement il y en a. Ah tiens, c'est déjà, quel est son nom à celui-ci déjà, ou pourquoi il est créé, ou qu'est-ce que je pourrais bien lui donner comme tâche, comme don, comme talent? Non, la Bible nous dit qu'avant même que tu sois formé dans le ventre de ta maman, avant même que tu sois fécondé, que les cellules commencent à se multiplier, il te connaissait. Il avait une intention, et c'est pour ça qu'il a permis que tu naisses. Dieu avait une intention claire pour ta vie, et déjà, il a permis que tu sois le vainqueur de la toute grande première course avec les autres millions de spermatozoïdes, et que tu puisses vivre ta vie qu'est la tienne aujourd'hui. Dieu, il n'est pas seulement le créateur, mais il est ton créateur. Il est ton créateur. Et le psaume 139 nous dit que, alors que j'étais encore qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, il n'y en avait encore aucun de ces jours qui avait commencé. Si tu es né, c'est que Dieu a un plan précis pour toi. Déjà être ton ami, tu sois son ami, mais il avait une intention en faisant que tu naisses. Et cette destinée, cet appel, elle est là, inscrite, c'est inscrit sur ta vie. C'est inscrit sur toi. Ce que Dieu a voulu que tu vives. Et c'est pour ça que tu es aussi ici aujourd'hui, ce matin. Parfois, Dieu est spectateur de nos choix, mais là, c'est parce qu'il nous aime et puis il a envie de nous laisser libres de choisir. Mais ce n'est pas parce qu'il est spectateur de nos choix et il voit ce qu'on choisit qu'il n'a pas un projet précis pour chacun à la base et qu'il avait une intention, qu'il a permis que tu viennes sur cette terre, c'est qu'il a une intention pour ta vie. Il avait une intention, il a une intention, un plan. Un appel, une destinée. Et comment découvrir cette destinée, cet appel ? Le psaume 84 nous dit que ceux qui cherchent, qui trouvent leur force en Dieu, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et c'est comme ça qu'on découvre notre destinée, ce chemin, cette intention de départ, c'est en cherchant notre force en Dieu, en réalisant qu'on a besoin de lui, qu'on ne peut pas juste s'en sortir nous-mêmes, qu'on a besoin de lui. Et Jérémie 29, 11 nous dit qu'il a des projets formés pour toi, qu'il a des projets formés pour toi. Et on retient souvent ce verset parce qu'il est parlé qu'il a des projets de bonheur et non de malheur, et c'est vrai, hein, et c'est vrai. Mais si Dieu nous dit qu'il connaît les projets qu'il a pour chacun et qu'ils sont bien, c'est parce que, comme le dit la suite du verset, il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Et ce mot espérance, qui a été traduit de l'hébreu tikva, qui vient de kava, qui veut dire s'attendre à, regarder à, et ça veut aussi dire, c'est ça je trouve étonnant, ça veut même dire cordon, corde. Donc Dieu, il a des projets, un avenir pour toi, pour que tu puisses espérer, tu puisses t'attendre à le vivre, c'est comme une corde à laquelle te raccrocher. Tu te raccroches à la corde parce que Dieu, il a une intention pour ta vie, pour ta vie, pour ton avenir, une corde à laquelle se raccrocher. Et c'est tellement précieux de connaître Dieu qui, quand on vient dans sa présence, il nous susurre à l'oreille ce qu'il a envie de, pour nous. Et du coup, on sait d'où on vient, on sait qui on est et on sait où on va. Et ça, il y a tellement de gens dans le monde, ils ne savent ni d'où ils viennent, ni qui ils sont, et encore moins où ils vont. Et c'est un privilège qu'on trouve dans la présence de Dieu. Quand on cherche en lui notre force, on trouve des chemins tout tracés. Et il nous révèle qui on est, et nous dirige dans ce à quoi on doit vivre. Et c'est un tel trésor pour nous-mêmes qu'on est appelé à découvrir toujours plus pour soi, mais aussi à faire découvrir aux autres. Parce que tout le monde a envie de savoir d'où on vient, qui je suis et qu'est-ce que je vais vivre après. Et ça, c'est un privilège que beaucoup, je pense, ont découvert ici dans cette salle et qu'on a aussi à faire découvrir autour de nous. Et je crois que c'est le plus cher désir de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, on puisse entrer justement dans les projets qu'il a pour nous. Parce qu'ils sont bons. C'est comme un parent, on a envie que notre enfant il ouvre ce cadeau parce qu'on sait ce qu'il y a dedans, dans ce paquet de cadeaux d'anniversaire. On se réjouit juste qu'il l'ouvre parce qu'on sait que c'est bon ce qu'il y a dedans. Dieu, il attend que qu'on rentre dans les projets qu'il a pour nous parce qu'il sait que c'est super. Seigneur, je te prie ce matin que tu viennes encore nous parler. Tu as parlé, Seigneur, au travers de la louange, tu as parlé par différentes pensées, tu as parlé simplement, peut-être directement par ton esprit dans nos cœurs. Et Seigneur, je sais que tu as une intention pour chacun. Tu veux nous amener à vivre quelque chose collectivement en tant qu'Église, mais aussi pour chaque personne, chaque individu. Et je te prie ce matin, Saint-Esprit, de venir toucher à nos cœurs. On n'est pas venu chanter des chants, entendre un message, puis on repart. On est venu te rencontrer, se laisser interpeller, être touché par toi et faire un pas de plus avec toi ce matin. Et je te prie que tu viennes, Saint-Esprit, on t'invite. Esprit de révélation, de libération, esprit d'amour. Viens, Seigneur, dans ces lieux. Viens dans cette salle, Seigneur. Attire nos cœurs à toi. Ouvre nos oreilles pour qu'on puisse entendre, Seigneur, toujours plus ce que tu as prévu pour nos vies et pour ma vie, Seigneur, pour notre ensemble en tant qu'Église, mais aussi pour chacun, qu'on puisse saisir ce qui vibre dans ton cœur, Seigneur. Et je prends vraiment aussi autorité contre toute pensée de fatalisme, toute pensée de découragement, toute pensée d'échec. Je veux briser au nom de Jésus toute mentalité de défaite au nom de Jésus, comme quoi tu restes là-dedans, que tu as échoué. Je brise ce mensonge au nom de Jésus. Dieu fait toute chose nouvelle et il veut le faire pour ta vie, pour chacun d'entre nous. Il a un plan précis pour qu'on puisse vivre des choses nouvelles. Alléluia. Et le Saint-Esprit agit, je sens qu'il est en train de faire, il est en train d'enlever comme des choses sur plusieurs, comme au niveau d'une identité, tu as raté, tu as échoué dans un ou l'autre domaine, il est en train d'enlever ça de ton front, parce qu'il a inscrit quelque chose, il a une destinée pour ta vie, et il est en train d'enlever cette fausse étiquette de mensonge que l'ennemi a collée sur ta vie. Alléluia. Tu es précieux, tu es précieuse, le Père est fier de toi. C'est pour ça qu'il a préparé ce bassin de purification, d'amour, magnifique. Ce n'est pas juste « je te sanctifie, point ». Il y a quelque chose, il y avait cette image, c'est fort, il y a ces fleurs. Dieu veut te rendre l'honneur qui t'a été ôté. Alléluia. Parce qu'il a un avenir d'espérance, puis un avenir pour son royaume, pour chacun. Et si Dieu nous dit tellement clairement dans la Bible qu'il a une intention précise pour chacun, c'est que parfois, humainement, on en doute. Et on peut vite, des fois, aussi rentrer dans notre propre projet. Des fois, on croit qu'ils sont meilleurs, ou bien on se dit que ceux de Dieu, ils sont trop grands, alors que Dieu, il a des projets vraiment sur mesure pour chacun d'entre nous. C'est ce fil rouge, c'est cette corde à laquelle s'accrocher, c'est ça, cet avenir d'espérance. Alors, il y a le plan de Dieu, et il y a nos plans. Et si Dieu a un merveilleux plan pour chacun, le challenge, c'est qu'il y en a un autre, le saboteur de service, qui a aussi un plan pour ta vie. Si Dieu a un plan pour ta vie, le diable a aussi un plan pour ta vie. Le diable a aussi un plan pour ta vie. Et 1 Pierre 5,9 nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors, il n'est pas créateur, mais il est imitateur. Et il se déguise juste en lion, justement, alors qu'il n'en a pas la puissance. Il est aussi mis dans 2 Corinthiens 11,4 qu'il se déguise même en ange de lumière, alors que la lumière, il l'a perdue. L'éclat, il l'a perdu. C'était un ange de lumière, mais C'est tout du fake. Il n'a plus ça maintenant. Et c'est un imitateur, saboteur, qui va tout faire pour qu'on n'entre pas dans cette espérance et cet appel que Dieu a pour chacun. Que nous ne tenions pas cette corde, ce fil rouge, cette destinée de bonheur que Dieu a prévue. Et en tant que créature, parce qu'il n'est qu'une créature et non créateur, il ne peut pas te construire un super beau projet de vie pour ta vie. Mais en fait, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir mettre en doute le projet de Dieu sur notre vie pour qu'on n'y rentre pas ou qu'on s'en détourne. En fait, il est le champion du mirage. Il attire les gens en leur faisant croire que c'est bien. Un bel emballage, et puis au final, dedans, ce n'est pas forcément ça. Il y a même des gens qui pensent faire du bien, qui pensent même guérir, des guérisseurs et autres. Il y en a, ce n'est pas forcément de mauvaise intention. Ils croient que c'est bien, mais en fait, ils se font avoir aussi par ça. Et je me souviens, quand j'étais ado, moi j'aimais bien boire du chocodrink, et c'est un bel emballage, tout ça, chocodrink, et puis je prends bien frais du frigo, c'est sympa, je bois, je me dis, ah tiens, aujourd'hui il est peut-être un petit peu plus clair que d'habitude, mais il a quand même le goût. Puis je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Puis alors je l'ai ouvert, et puis en fait, à l'intérieur, il y avait des gros morceaux verts de moisi poilu. L'emballage est magnifique, ça ressemble à ce qu'on a toujours connu, mais l'intérieur, c'est différent. Et l'ennemi, souvent, c'est comme ça. Il y a des belles choses, ça paraît fantastique, ça paraît alléchant, ça paraît bon, ça a bon goût. Même quand on commence d'y goûter, ça n'a pas forcément le goût de mauvais. Mais c'est tout à coup qu'on réalise qu'est-ce qu'on a ingurgité, qu'est-ce qui est venu en nous. Et moi, ce que j'aime, c'est mettre le focus sur Dieu et pas sur l'ennemi. Et je ne vais pas changer ça ce matin avec ce message, mais on ne peut quand même pas ignorer la stratégie de l'ennemi autour de nous. Comme le dit 1 Pierre 5,9, veillez. Veillez, c'est quand même mis qu'il faut veiller. Il rôde en cherchant qui dévorer. Et même si on met le focus sur Dieu avant tout, il est dit de veiller. Ça veut dire fais gaffe et regarde autour de toi. Il y a du fake, il y a des choses qui paraissent bonnes mais qui ne le sont pas. Il y a des choses qui paraissent saintes mais qui ne le sont pas. Il y a des choses qui paraissent de Dieu mais qui ne le sont pas. Il y a des choses qui tu penses être peut-être ton appel mais qui ne le sont pas. Et Jean 10,10 nous expose le plan de l'ennemi. Il est mis que le voleur, il vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est toujours ça, c'est toujours ce que va faire l'ennemi. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Il va essayer de voler et détruire l'appel qu'il y a sur ta vie. Il a envie de voler ça. Et il y a des fois, par exemple, des super musiciens, ils avaient sûrement un appel d'être des magnifiques louangeurs, adorateurs pour le royaume de Dieu, et l'ennemi a volé ça, puis ils le font pour la gloire ou pour d'autres choses, ou pour l'argent. Je ne sais pas, ça, c'est juste un exemple, je n'avais pas prévu de le dire. Mais l'ennemi vient souvent voler ou détruire des choses, simplement de la destinée qu'il y a sur nos vies. Et Jésus, lui, il expose aussi son plan dans ce même verset. Il dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient dans l'abondance ». Ça, c'est le plan de Dieu. Et avec ce désir de mettre le focus sur Dieu plutôt que sur l'ennemi, moi j'ai envie qu'on puisse voir comment Jésus lui-même, il a géré ça. Comment Jésus a fait pour rentrer dans le plan que le Père avait prévu pour lui. Il y avait une destinée. C'est pour ça qu'il est venu sur terre. Il y avait un plan précis. Si le Père avait un plan pour Jésus, c'était que son fils vienne sur terre, c'était qu'il forme courtement une équipe qui allait poursuivre le ministère, c'était aussi qu'il invente l'Église, puis qu'au final, il donne sa vie sur la croix. Il y avait un plan, c'était inscrit sur sa vie. Comment il a fait pour le vivre, alors que l'ennemi a tout fait pour qu'il ne le fasse pas? Le diable avait également un plan pour Jésus. Et vu qu'il n'est pas très créatif, le diable, son plan, c'était tout simplement de faire échouer le plan du Père. Et souvent, c'est ça son plan, c'est de nous détourner du plan et de la destinée que Dieu a pour nous, tout simplement. Pas forcément pour des choses épouvantables, hein, mais juste qu'on passe à côté de ce que Dieu a prévu. Et c'est ce qu'il a essayé de faire avec Jésus, et c'est ce qu'il va essayer de faire avec nous aussi. Il essaye de mettre des embûches sur notre chemin tout tracé, et cet avenir tout tracé qu'on a vu avant pour nous arrêter en chemin. Or, si on compare notre vie, on l'a souvent aussi dit, à un marathon, à juste titre, hein, c'est... au vu de la persévérance que c'est de courir vers le but pour atteindre le but avec le Seigneur, moi je trouve que notre course, elle ressemble souvent étrangement quand même à un 110 mètres haie, où il y a des haies, ou bien même pour les connaisseurs, aux 3000 mètres steeple. C'est une course où les athlètes ils parcourent une distance de 3000 mètres où il y a différentes haies, obstacles, et même un bassin qu'ils doivent enjamber, une piscine, pour une fosse d'eau même, c'est ça le terme, pour pas que... pour les interrompre dans leur course. Vous verrez ça sûrement, cette course, on ne la voit pas souvent, mais au JO de Paris, à moins qu'il fasse la grève des JO. Mais notre vie avec Dieu, ce n'est pas toujours un 100 mètres tout droit, sans aucun obstacle, ça on aimerait tous. Mais il y en a un qui vient mettre des barrières, qui vient mettre des haies, qui vient mettre des obstacles, et son but c'est de décourager, son but c'est de nous faire nous encoubler, voire même nous faire tomber, et surtout pour qu'on ne continue pas cette course, voire même qu'on coule. Et c'est pour ça que le titre de mon message ce matin, c'est « Au-delà des obstacles ». C'est « Au-delà des obstacles ». On a un appel, on a une destinée, mais il y a des obstacles. Et ensemble, on veut aller au-delà de ces obstacles-là. Et dans la vie de Jésus, qui va être notre coureur modèle ce matin, l'ennemi lui a d'entrée placé trois obstacles majeurs. Trois obstacles avant même que Jésus commence son ministère. Et c'est bien pour ça que l'ennemi a mis ces obstacles-là, c'est pour l'empêcher de courir, pour l'empêcher que Jésus réalise ce pourquoi il est venu sur terre. La même chose pour nous, il va tout faire, on peut avoir une belle vie, faire plein de choses, il veut juste nous empêcher qu'on accomplisse ce pourquoi Dieu a permis qu'on naisse. Et vu qu'il n'est pas très créatif, cet imitateur, il va reproduire inlassablement la même stratégie qu'il a fait envers Jésus, envers toi, envers moi. Et nous, on a un énorme avantage sur l'ennemi, c'est qu'on sait d'avance comment il fait et on sait d'avance comment Jésus s'en est sorti sans se laisser arrêter. Et c'est ça qu'on veut voir ce matin. Dans Matthieu 4, 1, il est mis que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et ce passage de Jésus dans le désert, c'est comme un test. Mais c'est aussi le passage où l'ennemi va tout faire pour empêcher Jésus d'être un semeur de vie, d'entrer dans ce pourquoi il est sur terre. Et si Jésus est venu sur terre, ce n'est pas juste pour être le petit Jésus dans la crèche, ça on le sait, mais c'est pour réparer les pots cassés. Comme on l'a vu pour ceux qui, dans les groupes ressources qui prennent le livre sur le combat spirituel, on a vu qu'Adam, il avait foiré. Et Jésus est venu comme ce nouvel Adam, comme ce nouvel homme, ce nouvel Adam. Pas comme un Dieu, mais dans la peau d'un homme pour réussir là où Adam a échoué. Pour réparer cela. Et non seulement, il fallait qu'il réussisse sans céder, sans se laisser tenter, mais au final, il a dû donner sa vie. Donc Jésus avait une mission très claire sur terre, c'était venir sur terre, c'était rester fidèle à son Père, c'était entrer dans un court ministère, 3 ans, se multiplier, et durant ce court ministère, il a semé la vie, il a annoncé la bonne nouvelle, il a prié pour les malades, la délivrance, le salut de beaucoup, et au final, il donne sa vie. Il a accepté cette mission. Je pense qu'à un moment donné, quand il avait 30 ans, il a dû se dire « La terre est belle ici, c'est merveilleux ici. » Mais le but, ça n'a jamais été de réussir ici. Peut-être qu'il aurait eu du succès dans l'entreprise de charpenterie de son père, je ne sais pas. Mais à un moment donné, il a dit « Mais moi, j'accepte cette mission. Commençons là maintenant. » Et comme signe pour rentrer vraiment dans sa destinée, il va se faire baptiser. C'est un peu comme le coup d'envoi. « Père, j'accepte cette mission. Je vais passer par le même chemin que tout le monde. Je rentre dans ce bassin. » Il est rentré dans ses eaux. Et il s'est laissé toucher par cette vie qui vient comme, il n'a pas besoin d'être purifié, il était sans péché, mais comme pour cette initiée, ouvrir le chemin d'une nouvelle naissance, pour naître de nouveau par l'eau et l'esprit. Et juste après son baptême, voilà que les premières haies arrivent. Et ce n'est pas que ce baptême était une mauvaise idée, donc du coup il y a des haies qui arrivent, ce n'est pas à cause de ça. Mais c'est justement ce qui va suivre, ce n'est pas juste des épreuves, des punitions, juste des tentations pour le faire souffrir, mais c'est parce que c'est le début où il va commencer sa course, et là directement les haies arrivent. C'est le début de son 110 mètres haies ou de son 3000 mètres steeple qui va durer 3 ans. Et les premières haies, elles vont être gratinées. C'était juste après un jeûne, donc ça a dû lui donner faim. Mais là, l'ennemi va le tenter sur plusieurs aspects, et la première haie, elle est méchante. Imaginez, ça fait 40 jours et 40 nuits que Jésus jeûne. Alors, ce n'est pas un jeûne où il jeûnait que le jour, puis la nuit, il mangeait tout ce qu'il voulait, comme beaucoup font maintenant actuellement avec le ramadan. Mais Matthieu 4, 2 nous dit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il ne pouvait pas aller ouvrir le frigo la nuit, parce qu'il n'y avait pas de frigo, mais aussi parce qu'il jeûnait la nuit. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et on voit que c'est Jésus, parce que si ça parlait de moi, ça serait avant d'avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ou bien pendant qu'il jeûnait 40 jours, il eut faim. Non, lui, alors il jeûne 40 jours, 40 nuits, super, et après, il commence à avoir faim. Non, il a pu bien vivre ce jeûne, il était connecté au Père. Il a pu vraiment vivre quelque chose d'extraordinaire pendant ces 40 jours. Mais au moment où il a faim, l'ennemi vient précisément l'attaquer sur ce point. Et souvent, l'ennemi, il vient vers vous, vers moi, juste après une victoire. T'as répondu à un appel, t'as témoigné, t'as prêché, t'as prié pour un malade, t'as tout donné, t'as servi, t'as répondu à un appel, t'es fatigué. Et qui c'est qui vient rôder autour ? Il ne va pas venir quand tu pries en langue dans ta chambre, il va venir juste après, quand tout à coup tu es fatigué. Comme Jésus a réussi son jeûne, il avait quelque part réussi son défi de 40 jours, hein, il n'était pas allé grignoter derrière un arbre, mais c'est derrière, et l'ennemi il flaire que c'est le moment de faiblesse, où Jésus a faim. Et Matthieu 4, 3, il est dit que le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Que ces pierres deviennent des pains. Et l'ennemi va taper justement là où ça fait mal. Justement, c'est quand il a faim que le diable vient lui proposer à manger. Ce n'était pas juste après avoir mangé avec les disciples quelque part ailleurs. C'est juste quand il a faim. Et d'ailleurs, la Bible, il y a différents noms pour parler du diable, mais un des noms, c'est le tentateur. C'est vraiment le mot utilisé, il vient le tenter. Et gardons à l'optique, ce n'est pas juste une tentation qui tombe sur Jésus. C'est vraiment la première haie pour l'empêcher d'arriver au bout de sa mission. Et le but de Jésus, c'est de rester sans péché, c'est de donner sa vie à notre place, mais c'est surtout pour qu'il puisse mourir à notre place en étant ce nouvel Adam. Et il faut qu'il le fasse en tant qu'homme, pas le Jésus glorieux qui vient gagner et qui transforme ses cailloux en pain. Non, il faut pour être ce nouvel Adam, il doit être cet homme. Et là, la première tentation pour le faire échouer, c'est d'utiliser ses pouvoirs à ses propres fins, ou à sa propre fin, c'est le cas de le dire. Transformer des cailloux en pain. Et combien tombent dedans et peuvent utiliser leur pouvoir, leur don, leur talent, leur don spirituel, leur ministère, pour leur propre fin ou leur propre nom, leur propre réussite. Et ça s'appelle utiliser les dons et les gens qui sont autour de nous pour soi-même. Mais ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est une sacrée haie. Et cette première haie, c'est une tentation qui va toucher son corps, parce qu'il a faim, qui va toucher sa chair, qui va toucher ses besoins, qui va toucher ses envies. Et une des premières haies que l'ennemi va mettre sur notre chemin pour nous empêcher de rentrer dans cette destinée glorieuse qu'il a pour chacun, c'est cette haie de la chair. Il va mettre ça devant nous. Le corps, la chair, nos besoins. Peut-être ce n'est pas manger. Mais si on regarde un petit peu, je ne vais pas faire une étude longtemps, je vais juste le dire en passant, mais si on regarde au niveau de qu'est-ce qu'est la chair dans la Bible, il y a plein de choses, mais notamment la Bible parle aussi, on le voit dans Matthieu 15, 19, de l'impudicité. C'est quoi ce mot impudicité ? Ça signifie par exemple des relations sexuelles illicites, c'est-à-dire hors de l'alliance prévue par Dieu dans le mariage. Et le mot même grec utilisé pour impudicité, c'est quoi ? C'est porneia. Porneia. On comprend tout à coup tous le grec là. Et je pense que dans le temps actuel, c'est une des haies majeures pour nous empêcher d'entrer dans notre mission. Pour nous empêcher d'entrer dans notre mission. Et Billy Graham a dit la chose suivante, fameux évangéliste, vraiment, qui a vraiment amené beaucoup, beaucoup de gens au Seigneur. Il a dit, le diable ne vient pas à vous avec des cornes et une queue. Il vient comme tout ce que vous avez toujours désiré et il vous entraîne loin de Dieu. Et là, Jésus, il a juste faim, donc il vient lui proposer juste à manger. Le diable, il ne vient pas comme un monstre chez toi, mais il vient te proposer ce que tu as toujours désiré. Et cette première haie pour Jésus, c'est une des premières haies que le tentateur va placer pour nous empêcher de courir vers le but, et surtout d'achever la course, d'achever la mission. Alors, ce n'est pas une porte fermée, ce n'est pas exceptionnel, c'est une haie, mais une haie, enfin, c'était l'image d'avant, une haie, c'est fait pour être enjambé, surmonté, dépassé. Et Jésus va passer cette haie par la puissance de la parole de Dieu, parce qu'il s'est nourri de la Bible, elle est là en lui. Il y a une puissance dans la Bible. Et dans Matthieu 4, 4, Jésus dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et il va utiliser cette parole, mais ce qu'il en dit, moi je trouve que c'est vraiment une perle. Parce qu'il va pas juste... Jésus ne va pas juste se priver de se nourrir avec ses pains. Il ne va pas juste réprimer ses besoins, ses envies, sa chair. Mais il va citer la Bible et ce qu'il dit, c'est vraiment fort. Il va dire que toute parole qui sort de la bouche de Dieu, voilà ce qui va nourrir encore plus. Voilà ce qui va nourrir. Autrement dit, Jésus donne les clés pour vaincre. Et les clés pour vaincre, ce n'est pas juste de dire non à la chair. Bien sûr qu'on doit à des moments se positionner et dire non, mais ce n'est pas juste ça la clé qui va donner. C'est non seulement d'être ancré dans la parole de Dieu, d'où l'importance de la lire, mais il va dire que de cette intimité qu'on a avec le Père, comme on a vu ces derniers mois où j'ai pu prêcher là-dessus, lorsqu'on réalise qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes, qu'on entend ce que le Père nous dit, mais c'est ça, cette parole qui sort de la bouche de Dieu, qui va nous donner cette force, qui va nous nourrir intérieurement et qui nous donne de vaincre la chair. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole, elle vient quand tu es avec lui et que tu l'entends, que tu l'écoutes. Si on a cette intimité avec Dieu, qu'on va vers lui, qu'il nous parle, qu'on va l'entendre, ça va nourrir notre être intérieur et combler tous nos besoins, si le Père nous parle vraiment. Et si souvent, on a insisté sur l'amitié, l'intimité avec Dieu, mais c'est parce qu'on sait que c'est capital. En plus de nous faire grandir, ça évite de chercher l'intimité ailleurs. Si tu vis l'intimité avec Dieu, que Dieu te parle, le Père te parle, ça va combler tout ton être intérieur et tu n'auras pas envie de chercher, de combler ta chair en cherchant l'intimité ailleurs. Alléluia. La deuxième est, pour empêcher Jésus d'entrer dans sa mission, ça ne va pas toucher le corps ou la chair, mais on voit dans Matthieu 4, 5, le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple. Et il lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il vient même citer la Bible, le diable, il la connaît et il va même l'utiliser pour faire tomber Jésus. Et cette « et », elle est subtile, c'est un sacré piège. Si tu es le fils de Dieu, et l'ennemi, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va remettre en question qui il est, et par là même ce qu'il sait faire. Et par la même occasion, de nouveau, faire essayer que Jésus utilise ses super pouvoirs divins, qu'il a volontairement laissé de côté, pour qu'il ne puisse plus être notre remplaçant et ce nouvel Adam, qui va réussir et donner sa vie à notre place. Mais le diable titille sur qui il est, sur son identité. Si tu es vraiment qui tu es, alors fais ceci. Si vraiment tu es le fils de Dieu, fais ceci. Ça touche tellement aussi le besoin de reconnaissance. Si les gens pouvaient savoir qui je suis vraiment, là, Jésus pourrait se dire, mais si les gens savaient vraiment qui est Jésus, le fils glorieux, waouh, ça serait fantastique. Mais ce n'était pas le but. Et si avant la première tentation, c'était plutôt le corps, la chair, là c'est un combat dans les pensées, c'est-à-dire dans l'âme, dans les pensées. C'est un besoin de reconnaissance, d'être enfin reconnu pour qui on est. D'être enfin reconnu pour qui on est. C'est ça qu'il lui tend, le diable, à Jésus. Tu veux être reconnu pour qui tu es? Jésus, ça fait 30 ans qu'il patiente puis qu'il attend enfin le signal. Il n'est que le fils de Joseph et de Marie. Il n'est que ce charpentier de Nazareth. Mais lui, il sait qui il est. Et ça serait quand même tentant que les autres réalisent aussi qui il est, enfin. Et la recherche de renommée, même à juste titre, hein, c'est une deuxième « et » qui peut nous faire échouer. C'est juste le début d'un enlisement. Mais c'est vite là. Parce que c'est vite tentant de montrer quand même les dons qu'on a. Si tu as un don prophétique et puis que les gens où tu pries avec des gens qui ne connaissent peut-être pas, c'est tentant tout à coup. Tu dis, si les gens ils savaient quand même que je peux donner des pensées, ou si les gens ils savaient la foi que tu as quand tu pries pour les malades. Oui, mais moi aussi, une fois j'ai prié pour quelqu'un. C'est vite fait aussi de montrer qui est les talents et de montrer qui on est. Ce qui compte, c'est la motivation, c'est le cœur, parce qu'il faut y aller, il faut prier, il faut parler. Mais je parle de la motivation du cœur, des pensées. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Pourquoi on le fait? Pourquoi on fait ceci, cela? Et cette deuxième « et » touche l'âme, et en particulier la motivation, et c'est un test. Ce n'est pas non plus la fin du monde, c'est une « et » à enjamber, à passer par-dessus, tout simplement. Celui qui court, il ne va pas se dire « oh, il y a une « et », quelle horreur, je m'arrête ». Non, c'est une « et », c'est pour passer par-dessus. Et là, à nouveau, Jésus, ancré dans la parole, il va citer la Bible et répondre au verset 7. Jésus lui dit « il est écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu ». Et c'est marrant parce que ce mot « provoquer », ekpeirazo, signifie éprouver, mettre à l'épreuve, éprouver le caractère. Donc cette deuxième « et » qui a une embûche qui touche les pensées, les sentiments, qui je suis, la comparaison, la jalousie, ne pas se sentir au niveau, se sous-estimer, se surestimer. Quand l'ennemi ne peut pas nous retenir, parce qu'on sous-estime, il va nous pousser et on va surestimer. Ça touche le caractère. Et le caractère, c'est un peu tout ce que j'ai dit avant, nos pensées. Et aujourd'hui, plus que jamais, tout est basé dans le monde d'aujourd'hui sur la compétition. Dès le système de l'école, puis je n'ai pas envie de condamner quoi que ce soit de l'école, je ne suis pas là pour ça, mais on évalue les enfants avec des notes, en fonction de certains critères, puis en fonction de ces critères, on donne un diplôme. Dès le départ, il y a une échelle de quoi se comparer. Mais ce système, qui tient d'ailleurs compte que de certains critères, pas de tous, hein, on tient compte de l'intelligence, du raisonnement, mais ça ne tient pas compte de l'intelligence peut-être relationnelle ou bien des qualités du cœur, enfin, il y a plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école. C'est une petite part du corps âme esprit, ce n'est pas tout. Mais on peut être, puis ça c'est, je ferme la parenthèse scolaire, hein, mais on peut être rapidement formaté au fait d'être évalué en fonction de nos talents et de ce qu'on fait, plutôt que de qui on est. Et c'est tellement fort, parce que dès qu'on est tout petit, on nous évalue tout en fonction de ce qu'on fait, et pas forcément du trésor qu'il y a dans notre cœur et de qui on est vraiment. Et ça, on a tous grandi là-dedans. Je pense que tous on est allés à l'école. Dieu, il n'a pas été formaté au système de la performance. Dieu regarde au cœur, et à chacun, il a donné d'autres talents. Et il veut nous libérer de la mentalité, de la comparaison, de la performance, et pas nous voir buter contre cette « et ». C'est très fort aujourd'hui aussi avec les réseaux sociaux, avec un faux idéal de bonheur, un faux idéal physique. C'est une atmosphère ambiante de prouver qui je suis, de prouver qui je suis, qui nous touche, qui s'imbibe dans nos pensées, alors qu'on court cette course pour aller vers le Seigneur. Et là, le diable, c'est ce qu'il essaye de faire avec Jésus. Il essaye que Jésus prouve qui il est. Mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors fais ceci, jette-toi en bas du temple. De toute façon, les anges vont t'aider. La Bible le dit, c'est la course au like, c'est un sacré test de caractère, de motivation. Là, il n'est pas encore connu, c'est juste le petit charpentier. C'est le fils de Joseph. Et dans ce monde imbibé de comparaison, cette haie du caractère que l'ennemi met sur notre chemin, après la haie de la chair, celle de l'âme, c'est une sacrée haie aussi. Hein. C'est subtil. Et ça peut amener soit de montrer à tous ce qu'on sait faire, et puis là, on surestime, puis on étale tout ce qu'on sait faire, mais ça peut aussi nous amener par crainte en se sentant moins bien que les autres parce qu'on se compare, à se sous-estimer. Et finalement, en sous-estimant, on va garder notre talent dans notre poche ou le mettre dans la terre, si on reprend la parabole des talents, plutôt que de le semer, de le faire fructifier, de le multiplier. Et Jésus, dans ce désert, après cette première haie qui touche le corps, la chair, après cette deuxième haie qui touche l'âme, qui je suis, mon ambition, mon caractère, il va être confronté à une troisième haie qui touche l'esprit. Et dans Matthieu 4, les versets 8 à 9, il est mis « L'esprit du mal emmène encore Jésus sur une très haute montagne et il lui montre tous les royaumes du monde avec leurs richesses et il lui dit « Mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout ça. » Pour cette troisième « et », l'ennemi y met le paquet. Lui qui, depuis la chute, a été précipité, comme on l'a vu, du troisième ciel sur la terre, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut donner tout ce qu'il a sur terre, les royaumes, il veut les donner à Jésus. Il donne tout, comme on a vu il y a deux semaines avec Andreas Keller, mais je vais le dire dans le mauvais sens, cette fois l'ennemi, dans ce troisième round, il met le all-in, hein, il met tout le paquet, tout ce qu'il a sur la terre, le prince du monde, tac, je te donne tous les royaumes du monde si tu te prosternes devant moi. Il veut tout donner à Jésus, mais pourquoi? Pourquoi il donne tout? Il joue quelque part sa dernière carte. Pourquoi il est prêt à perdre tout ça, l'ennemi? Pourquoi il est prêt à donner tous ses royaumes? C'est énorme. Vous êtes déjà posé la question, mais c'est pour détourner Jésus de son adoration envers le Père, de sa fidélité envers le Père, de sa soumission envers le Père. Il désire couper cette relation spirituelle que Jésus entretient, connectée au Père, lui en tant qu'homme sur terre. Et c'est une tentation spirituelle avec une énorme contrepartie, la possession, la richesse, le matérialisme, la possession de biens. Et cette troisième « et », elle est importante, elle est tellement présente aussi dans notre course. Elle se dresse devant nous pour nous arrêter dans notre appel. Et je pourrais parler longtemps du matérialisme, mais ce n'est même pas de ça que je parlais ce matin. Mais surtout, si ce n'est pas forcément si gros que ça, ça peut être subtil. Parce que Jésus il pourrait se dire, mais en ayant tous les royaumes sur terre, je pourrais vraiment accomplir mon ministère d'une façon énorme, avoir un impact sur toute la terre. Et pour la réussite du ministère, pour la bonne cause, on peut vite mettre un bémol à la soumission au Père, ou à la soumission à l'autorité pour pouvoir faire les choses pour le royaume. On est prêt à, des fois, à beaucoup. Et c'est exactement ça que l'ennemi veut tenter Jésus. On dit, mais tu pourrais faire plein de choses si tu as tous les royaumes. Tu vas être ce roi sur terre. pour qu'il mette un bémol sur sa fidélité, cette adoration, cette connexion avec le Père. Et l'ennemi essaiera toujours nous détourner de l'essentiel, c'est-à-dire notre relation avec Dieu, notre connexion spirituelle et notre appel premier d'être des adorateurs. Pour qu'au final, notre appel d'adorateur soit détourné de Dieu et souvent sur le matériel ou une autre passion. Et Jean 4, 23 nous dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Et Dieu est esprit, et il cherche des hommes, des femmes qui l'adorent, pas juste qui lui disent « Merci, c'est sympa », mais qui l'adorent véritablement, en esprit, en vérité. Et c'est la bataille que joue l'ennemi, cette troisième « et ». Avant même de parler du cadeau qu'il offre en échange, avec le matériel, l'enjeu, c'est de nous détourner de notre d'une adoration en esprit pour, au final, adorer l'ennemi ou soi-même. Mais c'est un peu pareil, souvent. Et cette troisième « et », pour nous empêcher d'entrer pleinement dans ce à quoi on est destiné, nous arrêter en chemin, c'est le but d'une « et », c'est de nous empêcher d'adorer Dieu. Alors qu'en fait, c'est quoi le premier commandement qu'on trouve dans la Bible ? C'est « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Il vient là-dessus. Et ça, c'est l'Ancien Testament, mais si on prend le Nouveau, qu'est-ce que dit Jésus ? C'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ». C'est le premier et le plus grand des commandements. Et c'est là, c'est pour ça que le diable, il met le paquet pour que ce commandement-là, Jésus passe à côté. Exactement. Et notre appel premier, c'est d'aimer Dieu de tout notre être, d'être entier, d'être passionné. Et l'ennemi, il met le paquet pour nous empêcher de le vivre, tout simplement. Et comme on a vu dans Jean, les vrais adorateurs, ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Et adorer en esprit, c'est une adoration qui vient du cœur, qui est authentique, qui est connectée au Père dans l'esprit. On adore celui que nous voyons. Et elle est vérité parce qu'on va chanter que Dieu est grand, qu'il est puissant. Parce que devant lui, on se tient et on voit ce Dieu grand, ce Dieu puissant. Ce n'est pas juste parce que quelqu'un d'autre l'a écrit, c'est parce que dans ma relation avec Dieu, je connais ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui est puissant. Et c'est une adoration qui est véritable, qui est vraie. Et en esprit, je vois ce Dieu. Je suis ébahi, ébloui devant lui parce que j'adore un Dieu avec qui j'ai cette relation et ce contact. Et je l'adore parce qu'il est grand, pas parce que je l'ai lu ou pas parce que le psalmiste l'a écrit, mais parce que je le réalise pleinement dans mon cœur et que je le vis et que je vois ce Dieu qui est grand. Une adoration telle, au-delà des mots, au-delà des chants, au-delà des notes, mais c'est ma vie qu'il adore. Je me donne, je me soumets à lui. Et c'est ça l'enjeu de cette « et ». C'est exactement ce qui insupporte l'ennemi. Il va tout faire pour que Jésus se soumette à lui, plutôt qu'il adore le Père de cette façon-là. Et il va tout faire pour toi, pour moi, qu'au final, on dirige notre vie plutôt nous-mêmes, plutôt qu'on adore Dieu, à tel point, en esprit, en vérité, qu'on se soumette totalement à Dieu. On dit « Seigneur, je me soumets entièrement à toi ». Et d'ailleurs, retiens ça ce matin, c'est vraiment fort. La victoire sur l'ennemi résulte toujours de notre soumission à Dieu. La victoire sur l'ennemi, elle résulte toujours de notre soumission à Dieu. On le voit dans Jacques 4, 7, où il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, pardon, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. » Et ça commence par là, la soumission à Dieu, qui va nous permettre de résister au diable. Et ce mot « résister », « antistémie », signifie « résister », mais aussi « s'opposer », « être contre ». Ça veut dire même, étymologiquement, ça vient de « histémie », qui veut dire « placer », « tenir en place », « garder intact », « rendre ferme », « fixer des règles », « se tenir », « tenir ferme », « maintenir ». C'est fort. J'adore, je lui soumets toute ma vie, mais ensuite, je reste ferme et clair face à l'ennemi. On a vu ces « et », tentation de la chair, tentation de l'âme, des pensées, tentation de l'esprit. Mais à un moment donné, alors que j'ai cette relation avec Dieu, c'est aussi moi qui fixe les règles, qui me tiens ferme et qui dis stop à l'ennemi. Et c'est souvent quelque chose qu'on partage quand on vit des temps, des entretiens, notamment aussi pour la délivrance, on prie pour les gens qui soient libérés, délivrés vraiment de toute oppression ou esprit du mal. À un moment donné, on dit, mais l'ennemi va toujours revenir, essayer de revenir comme ce lion qui rôde autour. Et à un moment donné, c'est toi le chef de ton jardin et tu gardes intact le jardin de ta vie. On peut chasser l'ennemi de ton jardin, mais après, tu te tiens à la porte de ton jardin, tu te tiens ferme. C'est exactement ça. Résister au diable, c'est ça, garder intact, rendre ferme, se tenir, c'est toi le boss à un moment donné, parce que Dieu est en toi, est à l'autorité. Loin de ma vie, et c'est ça résister. Et quel est le résultat ? Il est mis qu'il fuit. Quand on tient ferme face au diable, il fuit. C'est pas seulement qu'il n'arrive pas à nous toucher, mais il part. il part. Et c'est une grande, grande promesse pour nous qui sommes disposés à résister au diable, c'est qu'il fuit. Et Philippiens 2, 13 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et c'est Dieu qui nous donne sa force. On a vu tout début qu'en cherchant notre force en Dieu, on découvre les chemins tout tracés, mais en cherchant notre force en Dieu, il nous donne ce vouloir et ce faire pour aussi dire stop à un moment donné. C'est exactement ce qu'a fait Jésus dans sa course de cette troisième « et ». Cette troisième tentation, il va dire dans Matthieu 4, 10, « Va-t'en, Satan !» En effet, dans les livres saints, on lit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer et c'est lui seul que tu dois servir. » Alors l'esprit du mal laisse Jésus, donc il fuit, et des anges s'approchent de Jésus et lui donnent à manger. Et c'est exactement ça qu'on vient de voir. Jésus, il résiste à cette alléchante proposition d'avoir tous les pouvoirs et les richesses sur terre en gardant son adoration intacte. Et dans ce 110 mètres et cette course d'obstacles de notre vie, notre mission, c'est d'adorer et de servir totalement. Et l'ennemi va tout faire pour nous faire buter et nous faire arrêter. Si ce n'est pas devant la haie de la chair, ça va être dans celle de l'âme et des pensées, ou au final nous faire buter devant cette troisième haie de l'esprit pour nous empêcher d'être des adorateurs entiers et passionnés. Dans le but, et quand je parle d'adorer, ce n'est pas juste de chanter sous la douche, mais c'est adorer et servir Dieu, d'être des adorateurs qu'il adore par notre vie entièrement et pleinement. Et on entend ses paroles et on le sert. Mais ce qui est génial et ce qui est super fort, c'est qu'on a vu que Dieu n'est pas juste spectateur de notre vie. Et il a envoyé son esprit comme ce coach qui est là, qui court à côté de toi, puis qui dit « Vas-y, tu peux l'enjamber cette haie, je te donne la force. » Et si tu te prends une fois les pieds dans le tapis ou les pieds dans la haie, il t'aide à te relever. Et puis il dit « C'est pas grave, il y aura d'autres et encore. Je vais t'aider à apprendre à les enjamber, à les surmonter et à aller de l'avant. » C'est un encourageur, le Saint-Esprit, positif, parce qu'il nous aide à regarder vers le but et il nous encourage à ne pas rester. Quand quelqu'un fait un 110 mètres « et il se prend une « et » ou la « et » tombe, il ne va pas s'arrêter, mais il va continuer de courir. Et ce qui est super fort, c'est ce qui se passe après cette troisième « et » que Jésus a franchi en résistant à la tentation. On voit dans Matthieu 11 « Alors l'esprit du mal laisse Jésus. » Et comme on l'a vu, l'ennemi fuit quand on tient bon, et plus tu tiens bon, plus il fuit. Et plus toi tu deviens fort, moins il vient, parce que plus tu vas devenir fort, moins il va venir pour que tu sois fort. Et la suite du verset nous dit, des anges s'approchent de Jésus et lui donnent à manger. Et pour moi, c'était comme une révélation, j'ai lu ce texte X fois, mais c'était comme une révélation spirituelle de voir ce qui s'est passé. Jésus a été tenté dans la chair. Le diable lui propose de changer des pierres en pain. Il résiste. Qu'est-ce que fait le Père après ? Il lui envoie des anges pour lui préparer et lui donner à manger. C'est encore mieux que des pierres changées en miches. Un peu comme ces miches pré-cuites que tu laisses trop longtemps au four, quoi. C'est mieux que ça. Là, ce sont des anges qui amènent à manger à Jésus. Lui qui a jeûné pendant 40 jours. Ça l'a bien passé, ce petit repas angélique. Hein. C'est livraison directe du ciel. Hein. Dieu, j'aimerais te dire ça ce matin, Dieu vient combler les besoins, des besoins d'une façon tellement meilleure et glorieuse que ce que l'ennemi propose. Dieu vient combler tes besoins d'une façon tellement meilleure et glorieuse que ce que l'ennemi propose. Tout ce que l'ennemi veut faire, c'est te faire chuter dans la chair. Dieu a bien mieux à te proposer. Dieu a bien mieux à te proposer. Des anges viennent combler le besoin de Jésus dans la chair. L'ennemi lui proposait des pains. Là, c'est la nourriture qui vient de lui. Rappelez-vous, la deuxième « et », le diable tente Jésus en lui disant de monter sur le temple, de se jeter en bas, et que là, des anges allaient empêcher qu'il se fasse mal. Une démonstration de son savoir-faire, de sa puissance. Il résiste, et qu'est-ce qui se passe ? Dieu envoie des anges pour lui amener à manger. Les anges, ils sont là. Il amène lui-même des anges. Jésus a résisté, de faire appel à utiliser ses super pouvoirs divins pour ne plus être ce nouvel Adam, il a résisté, mais le Père envoie des anges pour le servir, à manger. Waouh ! L'ennemi voulait que Jésus utilise ses anges et cède, mais au final, c'est le Père qui le fait. Et c'est aussi une victoire spirituelle. Il est mis que l'esprit du mal laisse Jésus. Et tout à coup, Jésus, il est venu faire quoi sur terre ? Il est venu établir son royaume. Et par là, il a vaincu aussi l'ennemi pour ses 3 ans. Après, il va vraiment le manifester aussi à la croix. Mais là, l'esprit du mal laisse Jésus. Et Jésus a libre champ et il va commencer son ministère. C'est ça qu'il va faire. Il doit être dans une paix spirituelle folle. Les anges sont là, ils mangent. Quelle récompense, il est choyé par le Père. C'est dingue. Et c'est là qu'il va, après avoir enjambé ces trois « et », il va commencer son ministère. C'est précisément pour ça que l'ennemi a mis le paquet, pour l'empêcher. Il voulait le stopper. Or, le diable, il n'est pas très inventif. Il a toujours la même stratégie pour nous empêcher. Comme il a fait avec Jésus, il va essayer avec toi et avec moi. Il va nous tenter dans la chair, avec nos besoins, les désirs, nos envies. Il va nous tenter dans l'âme, notre identité, besoin de reconnaissance, notre motivation, ou de se sous-estimer ou de se surestimer. Il va nous tenter dans l'esprit, nous détourner d'une adoration ou d'une passion entière, pour nous empêcher d'être dans l'appel, où la raison même de notre naissance sur terre est le ministère que Dieu a prévu pour ta vie. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur ce message, et je suis convaincu qu'on est dans une saison vraiment où Dieu nous appelle à être connectés au cœur du Père et à nous positionner. C'est les deux thèmes qu'on prend dans les groupes ressources, vraiment d'être connectés au cœur du Père, mais aussi à être positionnés et fermes aussi dans le combat. Assis avec Christ dans les lieux célestes, ne pas subir les atmosphères, parce que c'est un temps où il faut semer, il faut nous lever, il faut communiquer et rentrer, pas garder nos talents dans la poche, mais aller semer. Et vaincre ces trois « et » a été déterminant pour le début du ministère de Jésus. Elles sont déterminantes aussi pour ta vie. Et ce matin, Dieu veut nous donner une mentalité de gagnant pour aller au-delà des obstacles. Et c'est dans la suite des messages, vraiment, j'ai presque terminé, c'est dans la suite des messages vraiment de ces derniers mois, de ne pas juste subir, rester sous les oppressions, sous le découragement, non pas non plus de se battre face avec le diable au deuxième ciel, dans le corps à corps, mais vraiment d'avoir cette position spirituelle, cette mentalité, vraiment comme des fils et des filles du roi, de savoir que la vie, notre vie, elle ne va pas être exemple de pièges, de tentations et d'obstacles, mais Dieu veut nous donner cette mentalité de les enjamber, et pas d'être effrayé quand il y a une « et », mais de se dire, ben voilà, c'est une « et », c'est le 110 mètres « et », quoi, c'est là, ça va être là, je vais l'enjamber par la puissance que Dieu me donne, et les franchir avec une mentalité de gagnant, de résilient, pour arriver jusqu'au bout. Et Dieu veut nous donner vraiment une mentalité d'homme et de femme déterminés à vivre leur vraie vie, c'est-à-dire la vie pour laquelle on a été appelé. Cette sainte vocation de Dieu pour se donner pour son royaume et pas nous laisser détourner, arrêter et décourager en chemin. Et la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et on comprend des fois mal ce verset. Ça vient à la suite d'une parabole que raconte Jésus où un roi invite beaucoup de gens pour les noces mais peu répondent à l'invitation. Et en fait, ce verset, c'est qu'il y a beaucoup d'invités. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés. Il y a beaucoup de gens qui ont un appel sur leur vie mais il y en a peu qui y répondent. Et en ce temps, Dieu il a envie de toucher toute cette génération qui ne savent ni d'où ils viennent, ni qui ils sont, ni où ils vont. Et pour ça, il y a beaucoup d'appelés au milieu de nous. Et ils cherchent des gens qui répondent à cet appel et qui ne butent pas sur ces « et » que l'ennemi va mettre devant ta vie, devant ma vie, comme il l'a fait devant la vie de Jésus. Parce qu'ils cherchent des gens pour toucher toute cette génération qui ne savent pas qui ils sont. Dieu veut insuffler en nous, ce matin, une mentalité de vainqueur, qui vont au-delà des tentations, au-delà des obstacles. Un vainqueur, ce n'est pas un surhomme, c'est quelqu'un qui s'est relevé une fois de plus que celui qui a abandonné. Il n'y a aucune accusation ce matin. On a tous simplement besoin de se relever et d'aller de l'avant avec force et puissance. Et moi, ce matin, j'ai envie de prier pour que la force de Dieu, et peut-être le groupe peut venir déjà de louange, je vais vraiment prier pour que la force du Seigneur vienne sur nous, pour nous donner le vouloir et le faire pour être de ces vainqueurs. Des changeurs d'atmosphère, des changeurs de circonstances qui allons au-delà des obstacles, au-delà des pièges. Et ensemble, je suis convaincu qu'on peut marquer l'histoire de cette région. Les disciples de Jésus, ils étaient 12. On en parle encore aujourd'hui. Ils ont changé la terre. Nous, on est plus que 12 ici. On peut changer cette région en étant des vainqueurs qui ne nous laissons pas arrêter par ces mêmes obstacles. Pas très inventif que l'ennemi va mettre devant ta vie. Si ce n'est pas la chair, c'est les pensées ou c'est l'esprit. Et Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses puissamment venir nous toucher. Parce Seigneur, tu es ce Saint-Esprit qui court à côté de nous et qui veut nous encourager à aller de l'avant. Tu veux, Seigneur, qu'on soit des hommes et des femmes qui sont déterminés et qui font la différence. Et peut-être je vous encourage à ce qu'on puisse se lever pour tous ensemble alors que je vais prier. Et Seigneur, je te prie que tu puisses venir par ton esprit. Je crois que ça nous touche tous à un niveau ou à un autre. Et Seigneur, moi je ne désire pas être quelqu'un qui s'arrête devant une haie ou si je me suis repris une haie qui reste assis à côté, découragé. Mais Seigneur, on se laisse choyer dans ce bassin de restauration, de grâce, qui nous restaure l'honneur pour être de ces athlètes qui vont courir cette course et qui vont la remporter. Parce que Seigneur, tu es là avec ton esprit et ta puissance ce matin pour faire de nous des hommes et des femmes qui sont vainqueurs, qui peuvent changer l'entourage, pour être Seigneur de ceux qui savent qui ils sont, d'où ils viennent et où on va. Et Seigneur, ça, on a envie de le communiquer autour de nous, alors qu'il n'y a plus d'identité. Les gens ne savent plus qui ils sont. Et Seigneur, nous, on a entendu ce matin, en introduction, au tout départ, Seigneur, que tu as permis qu'on naisse parce que tu as une intention pour nos vies. Et Seigneur, moi, je désire rentrer dans ce à quoi il est inscrit sur ma vie. Je ne veux pas juste vivre ma vie pendant X années. Je veux rentrer dans ce pourquoi tu as permis que je naisse. Et je ne veux pas me laisser arrêter par la chair, par les pensées, par le caractère ou par une passion ou une adoration qui n'est pas entière pour toi. Et Seigneur, je te prie ce matin de venir toucher les cœurs. Viens par ta force, Seigneur. Et je prends autorité contre l'ennemi qui vient salir, qui vient accuser, qui vient empêcher. Et Seigneur, je te prie que tu donnes à chacun cette autorité, comme tu l'as donnée à Jésus, simplement de dire « Stop, tu pars ». Et je veux briser ce mensonge où on croit qu'il est un grand lion puissant ou qu'il est un ange lumineux puissant. Il a perdu sa puissance, il a déjà perdu le combat à la croix. Et nous, on va juste à le rappeler à l'ennemi. Et on a envie de dire en tant qu'Église Passion, on ne veut pas se laisser arrêter non plus. On veut aller de l'avant et pas se laisser arrêter dans notre destinée de changer cette région et d'amener la vie. Et en tant que personne, on n'a pas envie non plus de se laisser arrêter par les différents obstacles que l'ennemi va toujours mettre les mêmes devant nous, au nom de Jésus. Et que tu puisses comme dans ton cœur te positionner et dire « Je désire être un vainqueur, une vainqueur. Je désire ne pas me laisser arrêter par ces obstacles, ces haies, ces pièges. Je peux le faire parce que Jésus a réussi et ce Jésus-là vit en moi. » Ce Jésus qui a vaincu vit en toi. Et je veux libérer cette puissance de vie maintenant dans ta vie, au nom de Jésus. C'est lui qui te donne le pouvoir et le fer de marcher sur les scorpions et les serpents. C'est lui qui te permet d'écraser le tentateur, qui finalement c'est comme du bluff, c'est du fake. Il n'a pas cette puissance. C'est toi qui as la puissance en Jésus. C'est toi qui as la vie par son esprit. Ce n'est pas lui. Il l'a déjà perdu sa puissance. Il fait le beau, il rôde autour. Alors on va veiller à ça. Mais il n'a plus cette puissance, c'est toi qui l'as, par la puissance de Dieu. Et je te prie, Seigneur, de fortifier chacun ce matin, ici dans cette salle. Amen.